Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. C'est un phénomène qui a beaucoup intrigué. Vers 22h20 hier soir, une secousse a été ressentie par de nombreux habitants de Nouméa, de Dumbéa et du Mont-d'Or. Et pourtant, aucune secousse n'a officiellement été répertoriée par les organismes spécialisés. Il n'en a pas fallu plus pour alimenter les hypothèses sur cette secousse. Certains ont même affirmé qu'elle avait été précédée par une lumière et qu'une météorite avait dû s'écraser non loin de Nouméa. Il n'en est rien. C'est bien un tremblement de terre qui s'est produit hier soir, mais un tremblement de terre de faible amplitude, nous a expliqué Olivier Monge, responsable du service géologique de la DIMINC. Et c'est en raison de cette faible amplitude que la secousse n'a pas été signalée.
Il a bien été détecté par les enregistrements, donc c'est ce qui a permis de préciser sa magnitude, sa profondeur, sa localisation. Par contre, il n'a pas été détecté en automatique parce que, comme la magnitude est très faible, ça n'envoie pas des SMS d'alerte aux directions et aux personnels qui sont d'astreinte habituellement et qui reçoivent ce type d'informations. Généralement, on envoie un SMS pour des séismes de magnitude supérieure à 3. Et là, il était plutôt de 2,8, ce qui explique qu'il n'a pas déclenché l'envoi d'un SMS.
Ce qui a aussi alimenté les commentaires, c'est que cette secousse a été la plupart du temps fortement ressentie. Mais c'est parce qu'elle était proche de nous, explique Olivier Monge, et à une faible profondeur sous Nouméa.
Il a été assez fortement ressenti parce qu'il était très proche de nous et à très faible profondeur. Même si c'est un séisme modeste, avec une magnitude inférieure à 3, il a été quand même nettement ressenti par une bonne partie de la population. Même si c'est un petit séisme, c'est comme un camion, quoi. Une voiture qui passe pas très loin, vous l'entendrez un petit peu. Si c'est un camion, vous l'entendrez beaucoup plus si vous êtes très proche. C'est vraiment très superficiel par rapport à des séismes sur la fosse de subduction du Vanuatu qui peuvent être nettement plus profonds, quoi, au-delà de 70 km.
Il y a en ce moment une activité sismique proche de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'hier après-midi, aux alentours de 16h20, un séisme de magnitude 4,8 sur l'échelle de Richter a également été ressenti au sud des îles Loyauté. 30 hectares de végétation partis en fumée à Koné aujourd'hui. Depuis ce matin, les pompiers sont actifs sur la zone en raison d'un feu de brousse qui a débuté près du lotissement Bellevue. Il a menacé plusieurs habitations pendant un moment, mais il est maintenant fixé grâce à l'intervention des pompiers, aidés de la sécurité civile et d'un hélicoptère bombardier d'eau. Écoutez le sergent Ramparani, il revient sur ses opérations de la journée.
Nous avons réussi à sécuriser le lotissement Bellevue où plusieurs maisons étaient menacées. Des gens ont été confinés dans les maisons, voire certains évacués. Il y avait des risques. Le front de flamme était à quelques mètres des maisons. On a pu justement sécuriser grâce à l'hélicoptère bombardier d'eau et les moyens au sol. Malheureusement, il y avait énormément de vent sur zone et le vent a tourné. Donc on s'est retrouvé avec un arrière du feu qui est devenu une tête de feu qui se dirigeait avec un violent vent vers l'antenne nord, la D3T, le SOPAC et le RSMA. Donc du coup, nous avons dû rebouger le dispositif pour faire une ligne d'appui et protéger tous ces points sensibles.
Le feu a également menacé un temps le centre équestre situé à proximité sans faire de dégâts. Il reste sous la surveillance active des soldats du feu. Et puis l'effet divers, c'est aussi cette enquête en recherche des causes de la mort ouverte par le parquet. Le procureur de la République informe de l'ouverture de cette enquête après la mort le 31 octobre d'un individu placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Fayaoué, Elisabeth Noir.
Il avait été interpellé par les gendarmes d'Ouvert dans la soirée du 30 octobre alors qu'il était très excité et qu'il avait incendié un lieu de coutume après avoir détruit par le feu son propre véhicule. L'homme de 37 ans a été placé en garde à vue pour dégradation par incendie ou moyen dangereux pour les personnes. Mais le lendemain matin, lors de l'ouverture de la cellule de garde à vue, les gendarmes l'ont découvert allongé sur le sol dans une épaisse fumée. Et alors que son matelas et la couverture étaient calcinés, malgré l'intervention rapide des secours, son décès a été constaté. Le procureur de la République précise que dans la poche de l'homme, il a été découvert un briquet qui lui aurait permis de mettre le feu à sa couverture, probablement à l'issue de la seconde ronde de contrôle par les gendarmes. L'autopsie ordonnée par le parquet a conclu à un décès consécutif à une inhalation de fumée toxique dans un milieu clos. Il n'a été relevé aucune lésion de violence ou de traces suspectes. Le parquet se dit soucieux de mener les investigations en toute objectivité et impartialité. Il précise qu'il a saisi de cette procédure la section de recherche de la gendarmerie ainsi que le bureau des enquêtes judiciaires de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
L'actualité politique et l'UPM confirment son retrait de la gouvernance du FLNKS pour privilégier la démarche UNIE, Union nationale pour l'indépendance. Le mouvement présidé par Victor Tutugoro dressait ce matin le bilan de son 41e congrès qui était réuni les 9, 10 et 11 novembre à Poum, Elisabeth.
L'UPM prend ses distances avec le FLNKS dont elle est pourtant l'un des membres fondateurs en 1984. Dans une motion adoptée lors de son 41e congrès, elle parle d'une alternative unie au FLNKS. L'UPM qui réitère la nécessité d'une clarification des stratégies du FLNKS, notamment après le rassemblement tenu à Koumak à la fin du mois d'août, un pseudo-congrès du Front auquel ni l'UPM ni le PALIKA n'avaient participé et qui avait nommé Christian Théin à la présidence du FLNKS. L'UPM suspend donc sa participation aux réunions du bureau politique du FLNKS tant que cette clarification n'aura pas eu lieu, déclare Victor Tutugoro.
Nous avons indiqué à notre comité central de septembre que nous ne nous reconnaissons pas dans ce qui a été fait et que nous ne participons pas au fonctionnement du FLNKS. Et donc le congrès a confirmé cette vision, cette tendance pour dire nous n'allons pas revenir au FLNKS aujourd'hui, nous n'allons pas revenir dans le fonctionnement du FLNKS, du bureau politique. Et par contre, nous allons conforter notre participation dans l'Union nationale pour l'indépendance et participer à ce que la structure porte davantage la vision d'avenir qui est celle de l'indépendance en partenariat et de la souveraineté partagée.
L'UPM suspend donc sa participation au FLNKS et si discussion il y a, elle y participera, mais au sein de l'UNI, l'Union nationale pour l'indépendance, elle ne coupe pas pour autant tous ses liens avec le FLNKS.
Je tiens à rappeler aussi que nous faisons bien la différence entre le fonctionnement normal du FLNKS, dans lequel nous ne reviendrons pas, et la négociation politique, où forcément on va être obligé de se concerter, de développer parfois des positions communes, parce que ce sont les besoins justement de la négociation politique par rapport au projet d'indépendance que l'on porte.
Le 41e congrès de l'UPM qui réclame de nouveau une clarification au sein du FLNKS, et notamment une clarification sur les valeurs après les exactions commises depuis le 13 mai.
Que l'on nous dise que sont-ils devenus, comment on les positionne par rapport à toutes les exactions qui ont été faites depuis le 13 mai. Les valeurs de démocratie, les valeurs de solidarité, les valeurs de diversité, etc. etc. Hein, c'est des valeurs internationales. Les valeurs de droits de l'homme. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à toutes les exactions commises, les incendies de maisons, les incendies de fabriques et d'ateliers, les emplois détruits, les pillages et les incendies d'églises. Voilà, qu'on se dise, comment on positionne de ces choses-là dans la construction du pays.
Et on peut rappeler que la maison de Victor Tutugoro à Païta avait été incendiée par les émeutiers. Dans sa motion de politique générale, l'UPM confirme par ailleurs sa volonté de poursuivre les discussions sur l'avenir institutionnel et de continuer à promouvoir son projet d'indépendance en partenariat. Elle a également adopté une motion sur le foncier coutumier qui préconise notamment la mise en place de baux ruraux pour occuper les espaces fonciers coutumiers.
Et demain, c'est le PALIKA qui rencontre la presse pour dresser le bilan de son 49e congrès qui était réuni le week-end dernier à Caen-la-Gomaine. Le Parti travailliste tient quant à lui son congrès annuel à partir de demain et sur 3 jours à Nouméa. Et puis la démission de Magali Tingal de l'Assemblée de la Province Nord. L'élu UC fait part de cette décision dans une lettre adressée au président de l'Assemblée de province, Paul Néaoutin. Elle invoque un désaveu interne de sa structure locale et des pressions psychologiques et elle estime ne plus être en mesure d'assurer son mandat sereinement. C'est la suivante de liste, Viviane Aramoto, actuellement 3e adjointe au maire de Ponérihouin, qui va succéder à Magali Tingal comme nouvelle élue du groupe UC-FLNKS au sein de l'Assemblée de la Province Nord. La déclaration d'intention conjointe entre le Sénat, l'Assemblée nationale et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Elle a été signée hier entre le président du Sénat, Gérard Larcher, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et la présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Velma Falaeo. L'objectif est d'intensifier le partenariat entre les assemblées, notamment pour permettre au Congrès de renforcer la démocratie participative et pour évaluer et améliorer les politiques publiques. Les élus du Congrès qui étaient réunis cet après-midi et qui ont adopté une délibération qui modifie le plan stratégique concerté en faveur de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie. Une délibération adoptée par 25 voix avec 6 abstentions, celle des loyalistes et du Rassemblement. Et puis au lendemain de la visite des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Sonia Backès, la présidente de la province sud et présidente des Républicains calédoniens, était notre invitée du matin à 7h30.
Et elle porte un regard mitigé sur la visite des deux présidents de chambre avec du négatif et du positif et certaines déclarations qu'elle juge un peu ambiguës. Elle leur a dit notamment que l'on est obligé de se parler et de travailler ensemble, mais qu'il ne faut plus être naïf, notamment à l'égard de l'Union calédonienne. Sonia Bekes s'interroge sur l'UC en se demandant ce qui va sortir de leur prochain congrès. Et dans ce contexte, elle regrette la naïveté ou l'ultra-bienveillance envers la CCAT de la part de Yael Braun-Pivet.
Moi, je me suis étonnée du fait qu'en métropole, elle considère qu'on ne doit parler qu'avec l'arc républicain. Vous savez, c'est cet arc qui exclut le Rassemblement national et LFI, alors même qu'ici, finalement, elle considère que nos extrémistes à nous, qui ont tout cassé, qui feraient pâlir Mélenchon dans leur capacité à mettre le feu au pays, finalement, eux, ils sont fréquentables ici. Bon, je crois que de la même manière qu'elle nous dit, c'est facile de trouver un accord ici, alors que en métropole, on a bien vu qu'elle n'a pas trouvé d'accord sur son budget. Donc, je crois qu'il faut être humble et pas venir ici pour nous faire la leçon. On va faire ce qu'on peut. Notre responsabilité, c'est de trouver une solution. On va faire tout ce qu'on peut pour trouver cette solution sans naïveté et dans le respect de la démocratie.
Sonia Bekes qui indique qu'il existe des solutions pour plus d'autonomie, plus de reconnaissance identitaire dans la République française, mais elle trouve maladroite et anachronique l'utilisation du terme de souveraineté partagée par le président du Sénat, Gérard Larcher.
En réalité, le terme de souveraineté partagée, il est déjà utilisé dans l'accord de Nouméa. Donc, c'est pas la souveraineté partagée. Ça peut être de la souveraineté partagée complètement dans la République. Ça peut être de la souveraineté partagée complètement à l'extérieur de la République avec une indépendance association. Le problème, c'est de laisser croire aux indépendantistes qui ont tout cassé. Je parle pas de ceux qui veulent construire, qui veulent trouver une solution avec nous. Je parle de ceux qui ont tout cassé. Ce qui est, à mon avis, pas utile, voire dangereux, c'est d'utiliser ce terme-là maintenant qui pourrait laisser croire aux extrémistes des indépendantistes que ce qu'ils ont fait le 13 mai leur permet d'aller un cran plus loin. C'est ça qui pose problème. C'est ce message ambigu qui pourrait leur laisser croire que finalement le curseur s'est déplacé dans leur sens. Ce qui est exactement l'inverse, puisque ce qu'ils ont fait le 13 mai nous a rendus encore plus dépendants de la France que ce qu'on était avant le 13 mai.
Interrogé sur les propos du président du Sénat qui annonçait hier soir qu'il y aurait un déplacement à Paris des différents responsables calédoniens avant le 5 décembre, Sonia Bekes confirme que cela se fera, mais c'est dans le cadre des solutions financières à apporter à la Calédonie.
En fait, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a, de manière unanime, l'ensemble des groupes, porté des amendements au projet de loi de finances de la France. Donc, d'une part, les groupes politiques du Congrès, d'autre part, les provinces et le gouvernement. Tout le monde, en fait, porte les mêmes amendements, qui sont des amendements qui sont de nature à sauver financièrement la Nouvelle-Calédonie, au moins pour l'année 2025. Prolongation du chômage partiel, de tous les dispositifs d'accompagnement des entreprises et sauvetage des collectivités qui peuvent, du coup, remettre en place les dispositifs économiques, sociaux qui existaient. Donc, ces amendements, ce projet de loi de finances, il passe au Sénat le 5 décembre prochain, d'où la date qui a été évoquée par Gérard Larcher. Donc le Congrès va se déplacer pour voir les groupes du Sénat, pour défendre ses amendements avant le 5 décembre prochain. Et ce que Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet ont proposé, c'est qu'il puisse éventuellement y avoir un point à ce moment-là sur les questions de discussion politique, mais rien de plus.
Une interview de Sonia Bekes à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Et nous reviendrons sur cette visite des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale demain midi dans le magazine Transparence, dont l'invité sera Virginie Rufnak, la chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Que retient-elle de ce déplacement et des propos de Gérard Larcher et de Yael Braun-Pivet? Comment voit-elle la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel? Quel est le rôle du comité interinstitutionnel qui s'est rendu récemment à Paris? Ce sont quelques-unes des questions qui seront posées à Virginie Rufnak, qui sera donc demain votre invitée, Elisabeth, dans le magazine Transparence, à suivre juste après notre édition de la mi-journée. Autre rendez-vous demain sur Radio Rythme Bleu à 7h30. Nous recevrons Jamil Abdelaziz, directeur de projet en charge du référentiel de la construction de la Nouvelle-Calédonie. Avec lui, nous parlerons de la Biennale de la construction qui aura lieu mardi prochain au Théâtre de Lille.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc clair de votre rendez-vous SMS avec la réponse à notre question d'hier. 64% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent satisfaits des propos tenus par Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet dans leur discours devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 36% à ne pas être satisfaits. C'est l'heure et voici maintenant notre question du jour. Êtes-vous choqué que la COP29, la 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, soit organisée à Bakou, en Azerbaïdjan? Si cela vous choque, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46, 18h. Il est temps de tourner une première page de publicité dans ce journal. On se retrouve juste après pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
En ce moment, Dacia vous surclasse. Pour le prix du modèle Life, repartez avec le modèle supérieur Life Plus. Chez Dacia, vous montez en gamme sans dépenser plus. Pour le même prix, vous avez plus d'équipement. Rendez-vous chez Dacia au 4e kilomètre pour vous faire surclasser. Et à vous, le Dacia Duster Life Plus à 1 995 000 francs et Dacia Sandero Life Plus à 1 895 000 francs. Renseignements sur notre page Dacia Nouvelle-Calédonie. Possibilité de financement sur place, offre dans la limite des stocks disponibles. Protégeons notre pays, économisons l'énergie.
Votre restaurant La Braise vous accueille du mardi au samedi au 7 route de Lanzvata. Spécialiste dans la cuisson au feu de bois et à la braise, venez partager un moment dans une ambiance chaleureuse et familiale avec un espace dédié aux enfants. La Braise, votre restaurant de viande à Nouméa. Réservez vite au 450 850.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Jean-François Baudin.
C'est aujourd'hui la journée mondiale du diabète. Elle était relayée en Nouvelle-Calédonie par l'Agence sanitaire et sociale. 15 500 Calédoniens sont concernés par cette maladie, Charlotte Coulson.
Elle est la première pathologie prise en charge au titre de longue maladie sur le territoire. Le diabète touche de nombreux Calédoniens et de plus en plus de personnes. Cette année, la SSNC a décidé de privilégier les actions de proximité. Alors pour la première fois, les professionnels de l'agence sanitaire et sociale sont venus dépister le public au centre commercial Hyper-U à Païta. Des actions coordonnées par le docteur Dominique Megrawa.
On sait qu'aujourd'hui, ce diabète souffre d'un gradient social, c'est-à-dire que les gens les moins aisés souffrent plus de la maladie. Et avec les problèmes de transport en commun, on s'aperçoit que la population va de moins en moins consulter, rendre visite à ses professionnels de santé. Donc on a décidé de venir à eux plutôt que, comme les années précédentes, faire une journée porte ouverte. Et donc nous voilà dans le temple de la consommation aujourd'hui. Énormément de passages, hein. C'est une nouvelle galerie, donc une forte affluence, notamment des jeunes qui viennent dès l'ouverture, des jeunes qui viennent à la pause déjeuner parce qu'on a des lycées et collèges juste en face.
Oui, vous l'avez entendu, l'initiative a rencontré du succès. De nombreux patients ont profité de la présence des professionnels pour tester leur taux. L'examen d'une durée maximale de 5 minutes débute par un rapide questionnaire visant à évaluer les facteurs de risque. Puis vient la petite piqûre qui renseigne sur le taux de glycémie dans le sang. Les Calédoniens rencontrés étaient plutôt satisfaits de leurs résultats.
Alors, on va tester vos facteurs de risque pour le diabète.
Oui.
Est-ce que vous pouvez me donner votre âge ?
39 ans.
C'est dans ma démarche à faire les courses qu'aujourd'hui, il y a un test pour détecter le diabète. Donc là, je suis au courant aujourd'hui que je n'ai pas de diabète. C'est parfait. C'est très, très bien. Ça, c'est à faire un petit peu partout. Peut-être qu'il faut aller chercher les gens puisqu'ils viendront pas, ils se déplaceront pas. Donc voilà, c'est une démarche très positive à mon sens.
J'ai jamais fait en fait. Ça va, mon résultat, il est bon.
Ah ben on s'est fait arrêter de suite. Donc on a fait le test avec plaisir. Négatif. Très contente, très satisfaite.
Et l'initiative sera reconduite demain au centre commercial d'Imbéamol.
Et puis le centre du don du sang a doublé sa collecte de poches de sang aujourd'hui. Les horaires d'ouverture ont exceptionnellement été élargis. Au lieu de 14h, le centre a refermé ses portes à 18h cet après-midi. Un élargissement des horaires pour toucher plus de volontaires, explique le docteur Laetitia Oshinkoi.
En fait, il y a un peu, on va dire, deux raisons. La première, c'est que ça fait un petit moment qu'on y pensait en se disant bah, pourquoi pas pour toucher le plus de donneurs possible. On a des horaires qui ne sont pas forcément évidents pour les personnes qui travaillent, notamment bah, dans les bureaux, dans l'administratif. Et donc, du coup, c'était se dire bah, voilà, c'est nous qui faisons l'effort aussi, de dire bah, si on a besoin de donneurs, on a besoin que les gens viennent et qu'ils puissent être disponibles. Et puis la deuxième raison, c'est par rapport au stock de sang aussi. Hein. C'est vrai que c'est une période où voilà, le stock avait un petit peu baissé. Il n'y a jamais eu de pénurie et on en a, mais il faut toujours anticiper. Et comme les stocks baissaient pas mal aussi, on s'est dit bah voilà, ça peut être l'occasion de le tenter aussi. Et si les gens répondent bien à l'appel, bah comme ça au moins on refera l'événement.
Plus de 40 personnes ont pu donner leur sang aujourd'hui contre 20 habituellement pour une matinée normale. Cette expérimentation pourra donc être reconduite plus souvent à l'avenir. Et puis parlons du Nouméa Women's Forum qui va revenir cette année pour une 4e édition. Et ce sera, Charlotte, sous le signe de l'adaptation et de l'innovation.
Et face aux exactions du 13 mai et à la destruction du tissu économique et social du territoire, les organisateurs ont dû réinventer le forum pour, disent-ils, préserver le lien unique créé au fil des 3 premières éditions et continuer d'offrir un espace où les femmes peuvent se retrouver, échanger, parler d'avenir et partager leurs perspectives. Les explications de Naya Wateu, élue à la province sud et au congrès, c'est elle qui est à l'origine du Nouméa Women's Forum.
L'objectif du Nouméa Women's Forum, c'est de pouvoir parler autrement des femmes que par le biais des violences intrafamiliales, sans mettre un tapis sur le sujet, mais de parler aussi de ces femmes qui réussissent, qui ont envie d'entreprendre, de ces femmes qui sont des modèles accessibles pour nos jeunes filles, et finalement de pouvoir apporter un peu plus de positivisme sur cette action. Ce forum, il s'inscrit dans la démarche aussi de développement économique que porte la province Sud, et finalement de pouvoir accorder ces différentes actions, qui sont très concrètes aussi, comment accompagner les femmes dans leur démarche d'entreprendre, pas toujours sur le secteur de l'économie, mais d'entreprendre largement. Et on le voit, les femmes sont moteurs, que ce soit sur le plan de l'économie, que ce soit sur le plan associatif. C'était important de pouvoir mettre en avant ces actions et ces initiatives. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir se faire se coordonner deux sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, l'entrepreneuriat au féminin, mais aussi l'économie sociale et solidaire.
Et depuis la première édition en 2021, l'association FCE, Femmes Chefs d'Entreprise de Nouvelle-Calédonie, est présente sur Nouméa au Women's Forum. Dominique Hickson est chef d'entreprise et membre de la FCE. Elle confirme l'importance de participer à ce type d'événement.
Alors, je pense que toutes les actions en faveur de l'entrepreneuriat au féminin sont vraiment bonnes. Force est de constater que selon les cultures, c'est pas toujours évident d'être une femme chef d'entreprise. Donc, ce concept de sororité et d'entraide peut faciliter effectivement les choses. On est une quarantaine de membres dans l'association en Nouvelle-Calédonie et on représente tous les secteurs d'activité du territoire. Moi, je suis dans le commerce, par exemple, mais on a des femmes qui sont dans l'industrie, dans les services, dans l'ESS aussi, puisque c'est un des sujets du Nouméa Women's Forum de cette année.
Et la quatrième édition du NWF aura lieu à la fin du mois, les 26, 28 et 29 novembre à la FOL et au centre administratif de la province Sud.
La dernière pause dans ce journal, il est 18h07, ce sera l'actualité sportive après.
Problème articulaire, perte de mobilité, découvrez l'innovation du laboratoire Pur Essentiel, les gélules SOS Flex, le premier complément alimentaire articulation et muscles qui agit pour préserver durablement votre confort articulaire et maintenir votre mobilité. Une gélule par jour suffit grâce à sa formule ultra concentrée 100% naturelle. Pour vivre intensément votre quotidien, le complément alimentaire Pur Essentiel SOS Flex. En pharmacie, Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Jean-François Baudin.
Oui, le sport et ce très bon résultat pour la sélection de Nouvelle-Calédonie de football. Elle jouait son deuxième match de qualification à la Coupe du Monde cet après-midi. C'était face aux îles Salomon et les Cagous se sont imposés 3-2. C'est leur deuxième victoire dans cette compétition. Les Calédoniens sont donc assurés d'une place en demi-finale. S'ils remportent leur prochain match le 17 novembre face à Fidji, les Calédoniens décrocheront en plus la première place de leur groupe. Ils devraient donc éviter les Néo-Zélandais, les ogres de cette compétition, dans cette demi-finale. Et puis attention, n'oubliez pas de jouer à notre jeu Chance. Deux bonnes raisons de jouer à Chance. La première, c'est un magnifique cadeau qui vous est offert. L'hôtel Coolnoué Village vous offre 5 nuits en bungalow premium. Avec vue mer, petit déjeuner, buffet pour deux personnes, vous pouvez profiter de la mer, de la piscine et de nombreuses activités sur place. C'est un cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Ça, c'est la première raison de jouer. La deuxième, c'est qu'il faut faire vite parce que le tirage au sort, c'est demain à partir de 14h. Vous avez jusqu'à demain pour envoyer chance au 40-20, 371 francs le SMS. Si votre SMS est tiré au sort, c'est vous qui remportez ce magnifique cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Envoyez chance au 40-20 dès maintenant et vous pouvez jouer évidemment plusieurs fois pour augmenter vos chances d'être tiré au sort. On termine ce journal à 18h10 par la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagée.
Alors Nicolas, quel est le temps prévu ?
Alors cette nuit, sur la côte ouest, les nuages s'évacueront rapidement, le ciel deviendra clair. Sur les autres régions, le ciel se chargera. Quelques bonnes averses se déclencheront sur la pointe nord, Bélep, ainsi que localement sur l'est et le nord des Loyautés. Le vent de secteur est soufflera entre 5 et 10 nœuds. Sur l'ouest, il deviendra variable faible. Les températures minimales seront comprises entre 20 et 25 degrés. Demain matin, les nuages élevés envahiront progressivement le territoire et voileront souvent le soleil. Sur la façade est, des nuages passagers déposeront des averses isolées. Le vent soufflera de secteur sud-est, généralement entre 5 et 10 nœuds, localement sur le nord-ouest et la pointe nord, entre 10 et 15 nœuds.